Amis Burgiens, bonjour à vous.
Et voici pour eux, pour nous.
Pour vous, Electric Boogaloo, votre chronique à cœur et à plume sur la fine fleur graphique de la bande dessinée.
Anne Tissier.
Et Maxime Mott, vous êtes bien sûr Radio B.
Pour vous servir.
I think it's time to blow this scene, get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.
Amis Burgiens, bonjour. Aujourd'hui, toujours dans notre optique des bandes dessinées didactiques, nous nous penchons sur un objet bien particulier, la ville de New York, à travers trois albums intitulés « Quelque part entre les ombres » de la série Black Sad de Garnido et Canales, « Le diptyque Giant » de Michael et « Les entrailles de New York », un roman graphique de Julia Rest, si je prononce bien.
Rest.
Rest, merci Maxime.
Wurtz.
Voilà, exactement. Explorons donc sans délai les tours et détours de la grosse pomme.
Et commençons mine de rien par le premier volume de l'élégante série Black Sad, intitulée Quelque part entre les ombres, paru en 2000 chez Dargo. 20 ans déjà.
Ah oui.
Un petit mot sur Black Sad pour resituer le phénomène. Black Sad est une série mythique de 5 albums seulement, mais devenue culte du fait de la qualité remarquable de son dessin, de ses personnages anthropomorphes et de ses scénarios de polar faussement classiques entre Chester Himes et Raymond Chandler. Série culte également par le temps que les auteurs ont pris pour publier les 5 albums. 13 ans entre le premier, Quelque part entre les ombres, et le dernier, Armario. Par ailleurs récemment adapté en jeu vidéo, et croyez-moi, ça fait longtemps qu'on l'attendait. À cette époque, en effet, artistes et éditeurs prenaient le temps pour produire et publier des albums de qualité, et non pour couvrir le lecteur d'un tsunami de publications sous prétexte que la BD se vend bien.
Oui, effectivement. Et oui, quand une série est bien faite, elle marche. Le succès de l'album, sorti en novembre 2000, a été immédiat et il fut rapidement en rupture de stock. Le succès du public et de la critique fut tel que les auteurs ont publié un making-of, intitulé « Les dessous de l'enquête » et ce, dès 2001. Oui, c'est bien Maxime. Ah oui, bah moi je l'ai pas. Donc oui, j'avais quand même resté en studio. Rappelons pour ceux qui ne connaissent pas Black Sad, shame on you, et qui découvriront grâce à nous cette série que le personnage principal est un détective privé, John Black Sad, qui prend les traits d'un grand chat noir au museau blanc, personnage magnifique par son charisme et sa mélancolie désabusée. Il faut noter que, enfin bon, c'est une note personnelle, hein, que sa stature le rapproche plus du puma que du chat. Ce n'est pas le genre de matou qui vient se frotter le long de vos jambes pour une boîte de ronron.
Eh oui, c'est plutôt Bagheera en impair avec son 44 et sa proverbiale mauvaise humeur. Ça sent la pluie, ça sent le tabac, l'eau dans le gaz, quoi. On peut aussi citer comme personnage récurrent de la série Smirnov, un commissaire de police sous les traits d'un berger allemand, droit et intègre, qui entretient une relation faite de rivalité et d'estime avec John Black Sad, et Weekly, une fouine malodorante, journaliste, apparue dans le deuxième album.
Les histoires prennent corps dans un New York des années d'après-guerre où l'on s'en s'entremêle à la fois les grandes arnaques immobilières, l'industrie du cinéma, même si celle-ci avait tendance à aller de plus en plus vers Los Angeles, les tensions raciales et sociales, bref, les grands mythes urbains américains. Le parti pris stylistique est de donner des corps d'animaux anthropomorphes aux personnages et de les classer selon leurs espèces, comme par exemple la couleur du pelage, le blanc, par exemple pour parler des wasps ou du Ku Klux Klan, ou encore les écailles ou les poils pour parler de la relation à la loi. Simple, efficace, toujours cohérent, en fait purement jouissif.
Sobre, classe et sans équivalent. Chapeau Garnido. Un genre de Zootopie version Tarantino. On enlève Disney et on rajoute les couteaux. Le premier album est une entrée en matière très directe sur Black Sad. En effet, l'enquête, bien que très classique, voire prévisible, est un prétexte pour faire le portrait du personnage principal de la série. D'ailleurs, la couverture de l'album, les yeux et le museau de Black Sad sont en gros plan. Il est le sujet principal d'un film noir fait en aquarelle.
Et quelle est donc cette enquête? Eh bien, cette enquête, c'est celle du meurtre de Natalia Wilford, une belle actrice de cinéma qui prend ici les traits d'une chatte retrouvée assassinée d'une balle dans la tête, comme exécutée dans son propre lit, dans sa propre maison. On découvre ainsi quel est le premier amour de Black Sad, mais aussi sa première expérience douloureuse de la trahison amoureuse. Elle est en effet ambitieuse, donc intéressée. Et volage.
Et pas de film noir sans femme fatale.
Oui.
Puisque personne n'est parfait, que l'amour à la carte n'existe pas, les circonstances ont vaincu et finiront par les séparer. On découvre également le jusqu'au boutisme du personnage principal qui va tuer froidement l'assassin de la jeune femme, un puissant promoteur immobilier, Ivo Statok, sous les traits d'un crapaud.
L'enquête permet de traverser une galerie de personnages pittoresques du monde artistique et de la pègre. Donc nous voyons un boxeur gorille, Jack Ostiombe, si je prononce
Ostiombe,
bien.
C'est ça.
Ostiombe. Oh. Ou Fiston, l'espion lézard, ou encore le barman Polly, un iguane géant. Et j'en passe. Admirons au passage le talent de dessinateur animalier et de coloriste de Juanjo Guarnido.
Juanjo.
Juanjo Guarnido. Sans compter aussi son sens du détail de la reconstitution des intérieurs de l'époque. New York est vraiment un choix esthétique urbain qui permet de produire un décor au service de vos émotions ou des péripéties, comme la filature dans la foule, les affrontements dans les bars.
Apprécions non seulement la qualité du trait, mais surtout la qualité des décors variés et riches, que ce soit une rue, une montée d'escalier, un commissariat de police, un bar, un appartement miteux ou somptueux, même un cimetière. Bref, un New York organique. Apprécions le mouvement des plongées et contre-plongées sur les personnages, très cinématographique, les modelés du dessin, la répartition de la lumière toujours très maîtrisée, ce qu'elles proviennent d'une lampe ou du soleil traversant des rideaux, d'arbres et déposant sur des visages des parcelles d'ombre diffuses. Le maestro Guarnido n'y est pas pour rien. Il a travaillé, mine de rien, l'animation pour Disney, en France, et on lui doit notamment l'animation du personnage d'Hadès sur Hercule, en 1993.
Et pour ce qui est du scénario, le message est clair, clair et tragique. Quoi que tu puisses faire, que tu sois puissant ou pauvre, vieux ou jeune, la ville de New York avec ou sans toi continuera de vivre et d'avancer, danse comme une fourmilière remplie de drames. Portons une attention particulière d'ailleurs à la planche 38, une case en pleine page, composée tout en plongée sur le salon dévasté de l'appartement de Black Sad, qui, tranquillement, fume une cigarette sur un canapé au pied duquel repose le cadavre d'un impromptu visiteur. Je cite « Mes cauchemars avaient enfin un nom ».
Oh joie. À lire et relire, toujours avec plaisir. Vous pourrez vous offrir l'intégrale pour avoir tous les albums sous la main en cas d'addiction sévère. Et nous nous quittons avec Coke G Rap et DJ Polo, Street of New York.
In the streets of New York, dope fiends are leaning for morphine. The TV screens follow the homicide scenes. You live here, you're taking a chance to look and I take one glance. There's a man inside an ambulance. The crowds are getting louder. I wonder how the people wanna go fight for the right powder. People hanging in spots. They waited till the blocks got hot and got raided by the cops. I'll explain the man sleeping in the rain. His whole life remains inside a bottle of night train. Another man got his clothes in a sack, cause he spent every dime of his rent playing blackjack. And there's the poor little sister. She has a little baby daughter named Sonya, and Sonya has pneumonia. So why's her mother in a bubbling zipper? Yo, that's a job. Sonya's mommy is a bar stripper. Drug dealers drive around looking hard, knowing they're sending their brothers and sisters to the graveyard. Every day is a main event. Some old lady limps, the pushes and pimps, he shrimps. It gets tiring, the sight of a gun firing. They must desire for the sound of a siren. A bag lady dies in the alleyways. She's seen the last of her days inside the subways. One more down the slope, the kid couldn't cope, so he stole somebody's dope and a gold rope. Now my son's on the run. He's the one and one had fun that was done by a shotgun. Upstairs, I cover my ears and tears. The man downstairs must have drank too many beers. Cause every day of his life, he beats his wife. To one night, she decides to pull a butcher knife. Blind man plays the sax. A tune called The Arms on My Mom's Show, railroad tracks. Many lives are cut short. It's when you're living in the streets of New York. Baby needs new shoes, but his papa uses all the money for booze. A young girl is undressed in the backseat of a caddy, calling some man daddy. Three men slain inside an apartment. All you can see is the sparks when it darkens. Daylight broke, cops rolling on the scene. The drug war, daily routine. Gamble spots, just a poor man's jackpot. You win on a lot, you get shot. The drug dealing fanatics, but you don't want no static, cause they got crack addicts with automatics. Shootouts for a desire for territory. A kid got caught on the crossfire. A tired mother can't take no more. She grabbed a bottle full of sleeping pills and took about 24. Human beings are laying on the pavement, cause they're a part of a mental enslavement. The cops snipe us, little babies in dirty diapers. This type of life is making you hyper. People scouting a tossed out building, and got killed when the cold air filled in. Is help really suggested? No more persons arrested, a child molested. A little kid says, yo, I got a color TV, CD player, and car stereo. And all I want is a capsule.
Pour continuer avec la grosse pomme, voici Giant, une série en deux volumes parue en 2017. On dira un diptyque pour les intimes.
New York, 1932. Malgré la grande dépression qui s'est abattue sur l'Amérique en 1929, les promoteurs immobiliers continuent de bâtir des buildings dans Manhattan. Et sur l'un de ces chantiers, celui du Rockefeller Center, travaille le géant irlandais Ryan, surnommé Giant par ses camarades ouvriers comme lui, de par sa carrure imposante et son côté, mine de rien, quelque peu taciturne. À la suite du décès d'un compatriote irlandais, celui-ci commence une étrange relation épistolaire avec sa veuve, en lui envoyant de l'argent et en se faisant passer pour son mari décédé. Marianne, sa veuve, de par cette correspondance, trouvera le courage d'entreprendre le voyage vers New York avec ses enfants pour y retrouver son mari.
Yikes. Oui, drama. N'en disons pas plus pour ne pas divulgâcher, ce serait dommage. Vous pouvez lire d'ailleurs l'agréable entretien avec l'auteur, Michael, scénariste et dessinateur québécois de Giant, sur le site Actua
BD.
Oui, Aquaman, sur le site Aquaman.
Non, pas d'Aquaman, c'est
oui.
Mal.
Oui, pardon. Donc, sur le site Actua BD, entretien datant du 24 août 2019. L'artiste est parti d'une photographie qui l'a impressionné, celle des ouvriers assis sur une poutre métallique suspendue dans le vide au-dessus de la ville. Photographie très célèbre et longtemps attribuée à Lewis Hine, mais dont on ne sait pas en fait aujourd'hui qui l'a prise.
L'album est dans des tons brun gris, sur pour le bois, le métal, la pluie. Les cieux new-yorkais sont le plus souvent gris, le ciel semble être obstrué de plus en plus par des chantiers et des buildings qui rendent les rues plus étroites et plus sombres. Les flèches des églises, les plus hauts édifices datant du 19e siècle, sont dépassés en hauteur par les nouveaux monstres d'acier.
Oui, l'auteur décrit une communauté d'ouvriers irlandais, leurs habitudes de vie en commun, mais aussi leur solitude et leurs relations tendues avec la pègre italienne du quartier où ils travaillent et où ils demeurent. Une voix off de journaliste radio décrit le contexte historique, celui des élections du président des États-Unis, dont Roosevelt, comme nous le savons, est sorti vainqueur. Le monde du travail et l'isolement des migrants qui viennent d'arriver dans la ville, dans ce nouveau pays, est palpable, car décrit au quotidien avec leurs habitudes et leur rythme de travail.
C'est un portrait de groupe, fort ma foi naturaliste, par touches subtiles, composé grâce à des cases muettes et purement descriptives. Des scènes de bains, de repas, d'offices religieuses, des pauses de travail sur les poutres de construction. Les protagonistes sont des gens modestes et courageux. Et mine de rien, Zola n'aurait pas fait mieux.
Oui, l'auteur intègre le personnage principal, donc le fameux Ryan, surnommé Giant, à son environnement malgré ses caractéristiques héroïques, à savoir un morphotype totalement monumental, sa beauté, sa jeunesse, sa force et son mutisme mystérieux empreint de chagrin. Bref, l'histoire est savamment équilibrée entre réalisme et romanesque.
Notons la présence des médias, radio en voix off diégétique et la photographie avec le personnage de la jeune femme journaliste. Il crée une mise en abîme du récit. Ce sont les médias qui ont le pouvoir d'écrire l'histoire ici. Et nous nous quittons avec un classique, Sixteen Town, dont le titre parle de lui-même.
Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's strong. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. I was born one morning when the sun didn't shine. I picked up my shovel and I walked to the mine. I loaded 16 tons a number 9 coal, and the straw boss said, well, bless my soul, you load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. I was born one morning, it was drizzling rain. Fighting and trouble are my middle name. I was raised in the canebrake by an old mama lion. Can't know a high-toned woman make me walk the line. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. If you see me coming, better step aside. A lot of men didn't, a lot of men died. One fist of iron,
the other of steel. If the right one don't get you, then the left one will. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store.
C'est vachement bien.
Oui, c'est magnifique, ça fait du bien de la réentendre.
Et notre troisième album aujourd'hui, vous devrais-je dire cette semaine, le graphic novel de Julia Vertz sur l'histoire d'un siècle d'architecture new-yorkaise. Son titre est évocateur, Les entrailles de New York, paru en 2019 aux éditions L'Agrume.
Ce n'est pas un guide de la ville, ce n'est pas un graphic novel sur son histoire, c'est un exercice de style sur son architecture extérieure mais aussi intérieure à travers la postérité des rues et des immeubles. L'auteur, Julia Rest. Rest?
Verst.
Oui, merci Maxime.
Julia Verst.
Oui, Verst. Verst, oui. Est californienne, et comme elle le dit elle-même, d'un petit bled en fait de Californie du Nord, comme elle l'écrit dans l'introduction. Elle découvre alors, quittant sa ville natale, de grandes villes, notamment San Francisco, mais elle craque véritablement sur New York, où elle ne devait rester en fait que 2 ans. Cependant, cette ville fut un véritable havre de vie pour elle et elle y resta une décennie.
Il faut aimer se faire mal quand même. Cette décennie fut consacrée à la bande dessinée puis à la documentation diverse et variée sur cette ville. Documentation officielle, administrative, mais aussi photographies et dessins personnels pour collecter sur cette ville maximum de données architecturales. En 2016, à la suite de son expulsion de son studio à Brooklyn, face à la pression immobilière et face à sa situation précaire de freelance, l'auteur a préféré rentrer chez elle en Californie pour terminer, dans le garage familial, la conception de cet album qui décrit son New York à elle. Mais d'une verve communicative et qui fait que tout lecteur repart avec son petit bout de New York à lui.
Oui, de la page 11 à 284, nous passons par une multitude de chapitres incroyablement variés, pour n'en citer que quelques-uns.
Les restes de l'exposition universelle de New York, de 1964 à 1965. La grande prohibition des flippers.
Ah oui, non,
faut
sérieux. Oui, trop dingue.
Quelque chose.
Oui, je pense que c'est la façon dont on prend, à mon avis, connaissant l'esprit puritain américain.
L'association des familles locales.
Oui, voilà. Donc, des chevaux à la voiture électrique.
Les portes art déco de New York.
Les portes gothiques de New York.
Le micro-logement de New York, ou la plus grosse arnaque de l'histoire de l'immobilier.
Les plus vieux bars de New York.
Les cinémas du Bronx, d'hier et d'aujourd'hui.
Et surtout le New York qui s'efface, et j'en passe. Les chapitres peuvent faire à la fois quelques pages ou une seule. Leur richesse est la preuve incontestable de l'amour que l'auteur porte à cette ville et dont elle nous donne en quelque sorte les clés.
Pour être concret, prenons, par exemple, le premier chapitre sur les restes de l'exposition universelle de New York. Je cite, « Les restes de l'exposition universelle de New York de 1964 sont l'un des secrets les moins bien gardés de toute l'histoire de la ville. En revanche, un secret mieux gardé est celui des lampadaires tout à fait uniques qui ont bordé les allées de l'exposition, installées pendant 2 ans dans le Queens. Certaines œuvres furent installées en ville, mais aucune ne voyagea autant que les lampadaires de l'exposition universelle. » Fin de citation. Aimés ou détestés, ils ont été installés dans des endroits divers, comme des foires municipales ou des clubs de vacances. Sur les 1800 exemplaires, on estime qu'il en reste environ 200. L'auteur les décrit précisément. Ces lampadaires étaient composés de cubes amovibles de 40 cm de côté, allant de 4 à 18 cubes par lampadaire selon les combinaisons. Ce qui est un peu bizarre, mais... David Turner et son fiancé Aaron Hills ont acheté par exemple 20 d'entre eux et les ont installés le long de la piste de leur aéroport privé en Pennsylvanie.
Oui, surprenant, n'est-ce pas? D'ailleurs, vous pouvez consulter, si vous avez l'air surpris et si vous avez le moindre doute, cette histoire sur leur site qui s'appelle, tenez-vous bien, flyingdollar.com.
N'empêche que les lampadaires dans Minecraft, c'est certainement à ça qu'ils ressemblent.
Oui.
Et tout l'album est ainsi d'une minutie d'entomologiste perché sur ses collections d'insectes.
Oui, de même, l'auteur use d'un procédé visuel récurrent, celui de comparer des dessins représentant sous le même angle de vue le même endroit. Endroit séparé dans le temps par plusieurs décennies, années 30, années 2010, etc. L'effet visuel est saisissant. Le regard passe de l'un à l'autre des dessins. On fait en quelque sorte une sorte de jeu des 7 erreurs, un peu élaboré quand même.
De même, quelques histoires de figures impopulaires peuplent cet album, comme celle de Madame Restel, l'avorteuse méprisée de la 5e avenue. Qui a fait, malgré tout, la liste des femmes influentes de New York. Elle est née en 1812, morte en se suicidant en 1878. Elle détenait des informations cruciales sur bon nombre de personnalités importantes, mais ne fut jamais admise dans les milieux des élites de la ville. Elle fit construire néanmoins un manoir dans leur quartier, sur la 5e avenue, pour leur manifester son mépris.
Et oui, c'est trop fort, effectivement.
C'est plutôt classe.
Oui, c'est plutôt classe, oui, oui. Quand on voit la taille, effectivement, du manoir, on peut comprendre qu'elle avait, des revenus assez importants.
C'est cher le bras d'honneur, mais...
Oui, c'est cher le bras d'honneur, mais c'est quand même classe. Donc, pour les amateurs du film Cotton Club de Francis Ford Coppola, 1983, je crois, dont je fais partie, vous pourrez comparer également les deux façades du club, celle de 1930 et celle d'aujourd'hui. En 2016. Mais nous ne restons pas à l'extérieur des immeubles à les contempler, nous entrons à l'intérieur et suivons les plans au sol des appartements types, comme par exemple celui des architectes Rosario Candela et Arthur Loomis Harmon. C'est des appartements de style art déco avec le fameux immeuble du 740 Park Avenue à Manhattan qui possède 17 niveaux et 31 appartements. Il est décrit comme le building le plus cher de New York. Avec des occupants plus ou moins bien réputés, comme des personnes fréquentant.
Dans tous les sens du terme.
Oui, voilà, exactement. C'est donc un pur plaisir, un voyage au monde de la description. On se croirait dans un roman de Balzac, ou peut-être dans un roman de Roger Vaillant, écrivain célèbre, un peu tombé dans l'oubli, mais qui est quand même une valeur locale.
Le lecteur se projette donc facilement grâce au dessin en noir et blanc qui permet de mieux comprendre l'architecture new-yorkaise. C'est donc un inventaire à la Prévert de la ville tentaculaire. On peut entrer dans cet album par le chapitre que l'on veut, ce n'est pas un récit linéaire. Un détail qui n'en est pas un, hélas, l'auteur parle souvent, trop souvent, de restes, de reliques pour décrire un patrimoine en voie de disparition.
Par exemple, à la page 247, l'auteur évoque l'article de Jane Merkel dans le New York Times sur les commerces indépendants qui disparaissent, comme le magasin de matériel d'art New York Central, fermé en 2016 et où pouvait s'apprévisionner l'auteur avant, hélas, son départ de Brooklyn.
C'est un peu partout pareil.
Oui, exactement, oui, tout à fait. On peut donc en conclure que Les Entrailles de New York est un graphic novel témoin d'une ville en mutation continuelle et surtout soumise aux appétits spéculatifs de l'immobilier.
Nous quittons sur la chanson d'AC/DC, Safe in New York City.